Alors, je vais dire un mot sur les questions philosophiques que l'on trouve dans les lettres de Cantor avec les Français. Et c'est aussi une des spécificités parce qu'il n'en parle pratiquement qu'avec des interlocuteurs français. La pensée philosophique, dans sa pensée philosophique, on peut remarquer de nombreuses références à Aristote, à saint Augustin, à des penseurs scolastiques comme Duns Scott ou Thomas d'Aquin, entre autres, ou à son maître à penser, Spinoza. Cantor est en effet à la recherche de fondements historiques de sa théorie des nombres transfinis et retient de ses auteurs leur point de vue sur l'infini, que ce soit le nombre infini ou la grandeur infinie. Ces aspects sont développés dans le livre et je ne vais pas ici approfondir, je me limiterai à deux questions. La première concerne la question du réalisme et de l'idéalisme. Elle apparaît dans une lettre à Paul Tannery de 1888 où Cantor écrit en réponse à un article de Tannery qu'il a qualifié de pur idéaliste comme principe et comme méthode. Je cite Cantor, « Je suis absolument éloigné de l'idéalisme moderne tel qu'il s'est développé depuis Kant. Mon idéalisme est apparenté à celui d'Aristote et de Platon, qui est, comme vous le savez en même temps, un réalisme. Je suis tout aussi bien réaliste qu'idéaliste. » L'idéalisme platonicien de Cantor est assez classique chez les mathématiciens, même de nos jours. Il est, pour sa part, tempéré par ce qu'il appelle son réalisme, qui le conduit à penser que les idées mathématiques ont quelque chose à voir avec le réel. Une lettre de 1886 à un interlocuteur, Claude-Alphonse Valson, qui est recteur de la faculté catholique de Lyon, cette lettre précise en effet « Non que mes travaux s'appliquent à quelque chose qui serait au-dessus de la nature, au contraire, ils ont pour but une connaissance plus précise, plus complète, plus fine de la nature même. » L'option philosophique de Cantor se précise. Son réalisme est lié à la connaissance de la nature. Influence de la naturphilosophie allemande, à coup sûr. Mais il ne faut pas oublier que Cantor est aussi luthérien convaincu. Et il ne fait aucun doute que pour lui, la nature résulte de création, d'une création. Natura creata, il écrit assez souvent, il accole assez souvent les deux termes. Nous voyons ici se mêler l'option religieuse à la pensée philosophique. La deuxième question que je voudrais aborder, c'est la question de la liberté des mathématiques. Les convictions de Cantor ne font pas bon ménage avec le déterminisme, que ce soit sous la forme positiviste ou sous la forme matérialiste. L'affirmation du libre arbitre, de la liberté de l'homme, est une des objections qu'il oppose au déterminisme dans ses lettres, qu'il échange en particulier avec Valson et aussi avec un abbé lyonnais qui s'appelle l'abbé Blanc. En matière scientifique, le plus grand danger, selon Cantor, consiste à restreindre le champ de la recherche. Aucune justification en ce sens ne peut surgir de l'essence des mathématiques. Denn das Wesen der Mathematik liegt gerade in ihrer Freiheit. Car l'essence des mathématiques repose précisément sur leur liberté. Cette liberté doit bien sûr être comprise comme une exigence institutionnelle à opposer au mandarinat académique. Mais elle constitue également une nécessité philosophique liée à l'évolution du cadre théorique dans lequel se posent historiquement les questions scientifiques, en particulier en mathématiques. Cette évolution doit bien sûr faire place au renouveau théorique dans lequel figure évidemment la théorie des ensembles. En guise de conclusion, on ne peut qu'insister sur la vision à long terme qui est celle de Cantor. On peut l'apprécier dans l'institution de congrès scientifiques internationaux de mathématiciens, œuvre de paix et de développement de la science. Et je donnerai comme seul exemple la réussite éclatante du congrès de Paris en 1900, ouvert par David Hilbert, qui est précisément un élève de Cantor. On la trouve aussi, cette vision à long terme, on la trouve aussi dans sa conception de la liberté des mathématiques, qui ouvre le champ à bien des évolutions formelles ultérieures. Les résonances actuelles de cette conception, opposées à un utilitarisme étroit, sont évidentes et méritent de nos jours d'être soulignées.